Chapitre 23. La ligne de cœur. Qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse? Chauderlot de Laclos. Lorsqu'il déboucha sur l'avenue, Romuald avait le pick-up Bordeaux dans son champ de vision. Dans sa poche, il entendait le grésillement des hurlements d'Emma, toujours en communication. Il replaça le téléphone à son oreille.
« Tu arrêtes cette voiture et tu reviens tout de suite à l'hôtel !» cria Emma.
Elle marchait à pas rapides, bousculant les passants de Boylston Street pour rejoindre l'hôtel.
« Tu comprends ce que je te dis ?
C'est notre seule piste concrète !»«
Tu roules dans un véhicule volé et tu ne sais pas conduire !»«
Si, je sais !»«
Tu vas provoquer un accident et te retrouver en tôle !»«
Pas question de laisser tomber !»
Cette fois, Romuald lui raccrocha au nez. Pour la première fois depuis leur rencontre, Emma prit vraiment conscience des dangers qu'elle faisait courir à l'adolescent. En l'entraînant sans réfléchir dans son enquête, elle n'avait pensé qu'à elle. À présent, elle était terrifiée par son inconscience, mais il était trop tard. Elle avait perdu tout contrôle sur le jeune Français. Elle pénétra dans le hall du Four Seasons et se dirigea vers les ascenseurs. Il fallait qu'elle se calme, qu'elle se ressaisisse, qu'elle renoue le dialogue avec l'adolescent. Elle composa de nouveau son numéro. Il décrocha.
« Tu es là, tête de blatte ? Bon, écoute, c'est d'accord. Suis ce type. Mais je t'ordonne de conduire prudemment et de ne pas te faire repérer, ni par lui, ni par les flics. Tu ne prends aucun risque et tu ne descends de voiture sous aucun prétexte, c'est compris ?»«
Oui, maman. » »«
Et tu ne me raccroches plus jamais au nez !»
Le téléphone de Romuald émit un signal sonore strident. Le garçon regarda l'écran, le symbole signifiant l'état de charge de sa batterie affichait seulement 7% d'autonomie. Il eut envie de s'arracher les cheveux. Comment lui, qui passait sa vie entre téléphone et ordinateur, avait-il pu être si négligent ?
« Je n'ai plus beaucoup de batterie !»
se désola-t-il.
« Je vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. »
Emma entra dans la suite en rage contre elle-même, écrasée par la culpabilité et l'impuissance. À part prier, elle ne pouvait plus rien faire pour aider Romuald. Elle lutta pour ne pas se laisser submerger par les émotions. Le geek avait quitté la chambre dans la précipitation, laissant ses écrans allumés et ses applications actives. Elle s'installa dans son fauteuil et regarda devant elle. Au moment de partir, Romuald était en train de fouiller dans les archives du Wall Street Journal. Il avait ouvert dans une fenêtre un des nombreux articles que le quotidien économique avait consacré à Nick Fitch. Ce n'était pas un papier récent. Daté de 2001, l'article avait tout juste la longueur d'une dépêche d'agence, mais son contenu était intéressant. L'affaire Nick Fitch. Alors que son produit vedette, Unicorn, vole de succès en succès, l'entreprise Fitch Inc. a-t-elle encore un capitaine à son bord? Qu'arrive-t-il à Nick Fitch? La question est sur toutes les lèvres dans la Silicon Valley. L'absence prolongée du cofondateur et premier actionnaire au siège de la société commence en effet à intriguer. Pire, depuis 2 mois, comme un écolier paresseux, Fitch a en effet séché l'Assemblée Générale ainsi que la présentation des nouveaux produits aux développeurs. Une absence inhabituelle pour ce bourreau de travail qui suscite l'inquiétude des investisseurs et fait plonger le cours du titre en bourse. Interrogé à ce sujet, l'attaché de presse du groupe a assuré dans un communiqué laconique que tout allait bien dans la vie de Nick Fitch, que ce dernier avait seulement souffert d'une mauvaise bronchite et qu'il serait de retour à son poste très prochainement. Emma cliqua sur d'autres liens du site. Apparemment, Fitch était bien revenu à son poste les jours suivants. Les cours de bourse de l'entreprise avaient repris leur envolée vertigineuse et l'information s'était peu à peu perdue dans les mémoires et dans les méandres d'Internet. Emma relut la fin de l'article. Une mauvaise bronchite ? Tu parles. Elle secoua la tête et ferma les yeux pour se concentrer. Et si Nick avait réellement été malade ? Peu à peu, certains blancs se comblaient. La maladie, le sang, la médecine, la santé. Autant d'éléments qui, comme des perles, s'ajoutait désormais au fil d'Ariane qui la menait progressivement à la résolution de son enquête. Emma ouvrit les yeux et regarda les autres écrans. L'intranet de l'hôpital. Elle s'approcha du clavier et s'empara de la souris. Il lui fallut 5 bonnes minutes et plusieurs manipulations pour comprendre comment accéder au dossier des patients et y faire une recherche par mots-clés. Elle tapa d'abord « Nick Fitch ». Aucune réponse. « Tu rêves, ma fille ». Elle tenta alors une nouvelle requête. « Groupe plus Helsinki ». Le dossier d'un patient s'afficha sur l'écran. Elle sentit son cœur s'emballer. Jamais elle n'avait été aussi proche de la vérité. Il s'agissait d'un certain Pete Drake, actuellement hospitalisé en cardiologie dans l'antenne de Jamaica Plain. Elle cliqua pour ouvrir le fichier. Dès qu'elle lut le prénom du malade, les pièces du puzzle se mirent en place dans son esprit. L'homme s'appelait Prince Drake. Prince Dark? Dark Prince? Le prince noir. C'était Nick Fitch. L'homme d'affaires était actuellement hospitalisé à Boston dans le service de cardiologie de Kate. Abasourdi par cette découverte, aussi fébrile qu'excitée, Emma se mit à parcourir le dossier médical avec attention. Elle y passa du temps, mais en comprit l'essentiel, et ce qu'elle en déduisit la pétrifia. Fitch était né avec un ventricule unique, une grave malformation cardiaque congénitale qui empêchait la bonne oxygénation de son sang, faisant de lui un bébé bleu, un enfant cyanosé qui n'était pas certain d'atteindre l'âge adulte. À 8 ans, il avait subi une intervention palliative pour améliorer son oxygénation sanguine, suivie de 2 nouvelles opérations à cœur ouvert 7 ans et 10 ans plus tard. Si ces interventions avaient eu le mérite de le maintenir en vie, elles n'avaient fait que retarder l'échéance. Tôt ou tard, pour continuer à vivre, il aurait besoin qu'on lui greffe un nouveau cœur. Une greffe quasi impossible vu son groupe sanguin exceptionnellement rare, ce fameux groupe Helsinki. À 42 ans, Nick Fitch était donc une sorte de miraculé. Pendant des années, dans la plus grande confidentialité, il avait fait l'objet d'une surveillance médicale minutieuse. Il s'était sans doute accroché à la vie avec une volonté de fer et une bonne dose de chance. Mais aujourd'hui, son cœur était en train de lâcher. Emma cliqua sur le pavé tactile pour faire défiler le document. Les dernières annotations indiquaient que Fitch était hospitalisé depuis 24 heures en attente de transplantation cardiaque. Cette fois, l'homme d'affaires avait abattu toutes ses cartes. C'était la greffe ou la mort. Romuald se concentrait sur sa conduite. Il s'était fait une belle frayeur lorsque son SUV avait subitement calé à un feu rouge sur Beacon Street. Il avait mis du temps à redémarrer et, pendant un moment, il avait cru avoir perdu la trace du cascadeur. Mais il avait retrouvé le pick-up rutilant sur l'expressway qui contournait le centre-ville par le nord-ouest. La circulation fut brièvement ralentie par un bouchon au niveau du nœud autoroutier qui permettait de rejoindre l'Interstate 93. Cette fois, alors que les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc, il fit bien attention à ne pas se tromper dans le maniement de la boîte de vitesse. En France, avec son père, il avait débuté une formation de conduite accompagnée, mais jamais il n'avait pensé un seul instant qu'il se retrouverait si vite, seul, au volant d'une voiture. La circulation redevint rapidement fluide. Il gardait le pick-up Bordeaux dans la ligne de mire en s'efforçant de ne pas se faire repérer. À présent, le Dodge roulait à bonne allure en direction du nord. Pendant un quart d'heure, ils traversèrent la réserve de Middlesex Fells, entourée de chênes, de pins blancs et de noyers, puis la camionnette obliqua vers l'est pendant une dizaine de kilomètres, avant de repartir vers le nord par les routes secondaires. En remontant vers Lowell, une ville industrielle autrefois florissante, l'adolescent s'efforçait de rouler à bonne distance de sa cible. La beauté du paysage était à couper le souffle. Le soleil rasait l'horizon, striant le ciel de bandes jaunes et orangées qui fusionnaient dans une frange bordée d'un halo lumineux. À perte de vue, s'étendaient de vastes surfaces immaculées et laiteuses, ponctuées du miroitement d'un lac ou du flux argenté d'un cours d'eau. Au moment où Romuald s'y attendait le moins, le pick-up vira brutalement à droite pour s'enfoncer dans le chemin étroit d'une forêt de sapins. Mais où il va ? L'adolescent se rangea sur le bas-côté et appela Emma pour lui faire part de sa position. À Boston, le soleil venait de disparaître derrière les nuages. Dans la pénombre de la chambre, Emma resta un long moment dans le silence. Autour d'elle, le temps s'était arrêté. Malgré les évidences, son esprit avait du mal à admettre l'effroyable vérité qu'elle venait de mettre au jour. Kate projetait de tuer son mari pour fournir un cœur à son amant. Son esprit bouillonnait, mais peu à peu, tout devenait terriblement clair. Les informations obtenues depuis une semaine se raccrochaient entre elles pour former la trame d'un piège redoutable. Le portrait d'une femme se dessinait dans son esprit. Une femme amoureuse jusqu'à la folie, qui avait mis son intelligence au service d'un projet monstrueux. Un film défilait dans la tête d'Emma. Des images, des scènes auxquelles elle n'avait pas assisté, mais qu'elle était capable de restituer non dans leurs détails, mais dans leur vérité. Milieu des années 1990. Kate et Nick vivent une intense passion amoureuse. Ces deux-là sont faits pour être ensemble et pour s'aimer. Beauté magnétique, jeunesse, intelligence vive. Ils s'éblouissent l'un l'autre. Leur histoire est forte et singulière. Elle prend naissance lors de cette fameuse première rencontre que lui avait racontée Joyce Wilkinson, un jour de neige, dans le restaurant d'une station-service d'autoroute. Une histoire que Kate doit placer plus haut que tout. Le jour où sa vie a basculé, le jour où ils se sont reconnus, le jour où Nick l'a sauvée. Mais Nick a un secret, une maladie cardiaque qu'il sait fatale et qu'il cache depuis son plus jeune âge. Peut-être parce qu'il ne veut pas être pris en pitié, certainement parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle de son entreprise. Il sait qu'il peut mourir à tout moment et ne veut pas imposer ce fardeau et cette douleur à Kate. Alors, il prend de la distance, la rend malheureuse pour la forcer à s'éloigner de lui. Kate est désespérée. Elle perd confiance en elle, ne comprend pas pourquoi Nick la repousse et va jusqu'à entreprendre une opération de chirurgie esthétique dans l'espoir de le reconquérir. Que se passe-t-il alors? Sans doute Nick comprend-il qu'il fait fausse route et qu'il doit dévoiler la vérité à celle qu'il aime. Une révélation que la jeune femme va accueillir comme un soulagement. Non seulement Nick est toujours amoureux d'elle, mais encore elle a désormais l'opportunité de le sauver à son tour. Une révélation qui la pousse à interrompre brutalement son résidanat de neurologie pour se tourner vers la chirurgie cardiaque. Le début d'une nouvelle vie, entièrement dévouée au travail, à la recherche médicale et au suivi de la santé de Nick. Ses travaux sont brillants et explorent plusieurs pistes. Les traitements immunosuppresseurs, la modification génétique des groupes sanguins, mais ne débouchent sur rien qui, à court terme, puisse aider Nick. Car elle se heurte toujours au même obstacle. Seule une greffe pourrait sauver l'homme qu'elle aime. Or, elle sait que le groupe sanguin particulier de Fitch entraînera le rejet de tout organe provenant d'un individu n'appartenant pas au groupe Helsinki. Jusqu'où peut-on aller par amour? Loin. Très loin. Mais il existe une frontière au-delà de laquelle peu de personnes sont prêtes à s'aventurer. Kate l'avait franchie. Comment avait-elle basculé? Quel avait été le déclic? Là encore, par un étrange mimétisme, Emma était presque capable de voir la scène comme devant un écran de cinéma. Automne 2006. Au milieu d'une garde sans fin, un patient un peu plus charmant que les autres se présente aux urgences de l'hôpital. Le type vient de se couper avec un sécateur en jardinant. C'est un jeune prof de philo. Un mec vraiment cool, intelligent et drôle. Kate le prend en charge et lui fait quelques points de suture. Elle sent qu'elle lui plaît, mais le type a l'air réglo. Pourtant, il ne peut s'empêcher d'entrer dans le jeu de la séduction. Avec elle, les mecs se comportent tous comme ça. Bien qu'elle n'en tire aucune gloire, elle sait qu'elle a ce truc que les autres n'ont pas. Ça ne la flatte pas, ça ne la rassure pas. Depuis longtemps, elle mène un autre combat, une autre guerre. Pourtant, cet après-midi-là, quelque chose se relâche en elle. Que se passe-t-il vraiment? Peut-être que la journée a été difficile et que Matthew l'a fait rire. Peut-être qu'elle est sensible à sa culture. Peut-être justement qu'il ne cherche pas à la draguer et qu'elle ne se sent pas en danger. Alors, elle accepte d'aller prendre un coca avec lui. C'est le début du mois d'octobre, en plein été indien. Un soleil doré éclabousse le parking de l'hôpital sur lequel stationne le camion de don du sang de la Croix-Rouge. Ils sont là tous les deux en train de boire leur canette de soda. Comme elle a l'habitude de le faire avec tout le monde, Kate tente de convaincre son patient de donner son sang. Elle lui fait l'article, lui explique que c'est elle qui gère cette opération, que ce serait sympa de sa part de participer. Il l'écoute, sans l'écouter. Il la regarde remettre une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Il pense à Grace Kelly, dans les vieux Hitchcock. Il se demande s'il y a un type qui, tous les matins, a la chance de se réveiller auprès de cette femme. Et il en est immédiatement jaloux. Déjà, il cherche comment avoir une chance de la revoir. Il trouve charmant qu'elle insiste autant pour qu'il donne son sang. Il répond qu'il n'est pas à jeun. Elle lui dit que ce n'est pas grave. Il rétorque qu'il a peur des aiguilles. Elle propose de l'accompagner. Il cède avec délice. Puis la vie de chacun reprend son cours. Peut-être ont-ils échangé leur numéro de téléphone, mais ce n'est pas certain. Dans la tête de Kate, le souvenir ne tiendra pas longtemps. Il commence déjà à s'évaporer lorsque 2 jours plus tard, elle découvre les résultats des analyses sanguines. D'abord, elle n'en croit pas ses yeux et demande au labo de recommencer l'analyse sur un autre échantillon. Le résultat est confirmé. Matthew appartient bien au groupe Helsinki. Matthew est né la même année que Nick. Il a la même morphologie. Il est le donneur parfait. Comment ne pas y voir un signe du ciel? Une occasion incroyable qui ne se reproduira plus jamais. Que se passe-t-il alors dans la tête de Kate à ce moment précis? Que ressent-elle lorsqu'elle comprend que la seule façon de sauver l'homme qu'elle aime est de devenir un assassin? Comment franchit-on la frontière entre l'amour et la folie? Le téléphone sonna dans le vide pendant plusieurs secondes avant qu'Emma émerge de ses pensées.
« Oui, Romuald, où es-tu ? » ?
À 10 kilomètres au sud de Lowell. Le pick-up du cascadeur vient de s'enfoncer dans un chemin forestier.
« D'accord. Le type doit avoir une cabane ou une sorte de planque dans le coin. Maintenant qu'on sait où il se cache, rapplique Dardar à l'hôtel. »
L'adolescent hésita. Emma entendait le bruit du moteur du SUV qui continue à tourner.
« Rentre, Romuald. J'ai plein de choses à te raconter. Il faut qu'on prenne une décision. »
Mais l'adolescent ne l'écoutait pas.
« Romuald, s'il te plaît !»
Le garçon essuya ses lunettes. Il ne pouvait pas stopper maintenant, au milieu du gué. Ne pas savoir ce qui se trouvait au bout du chemin serait pour lui un manque de courage, une défaite personnelle. Il remit sa monture et actionna la marche avant.
« Je vais voir !»
lança-t-il à Emma.
« Je reste en ligne. »
Il jeta un œil à sa batterie. 3%. Puis s'enfonça à son tour dans la forêt. La piste était recouverte d'une épaisse couche de neige, mais les énormes pneus du Dodge avaient bien déblayé le passage. Plus il s'enfonçait, plus il faisait sombre. Le soleil avait disparu, caché par la densité des conifères. Il serpenta ainsi au milieu de la pénombre sur un demi-kilomètre. À l'autre bout du fil, Emma se rongeait les sangs.
« Tu es toujours là, tête de blatte ?»«
Oui, mais j'arrive dans un cul-de-sac. »
L'adolescent crispa les mains sur le volant. Au bout du sentier, le Dodge avait fait demi-tour et lui faisait face.
« Le pick-up est là, mais... »
Il plissa les yeux.
« Mais quoi ?»«
Je crois qu'il n'y a plus personne au volant. »«
Romuald, reviens, bordel !»«
Oui, c'est plus prudent. »
admit-il. À présent, il avait vraiment peur. En quelques secondes, le bois était devenu opaque et semblait se refermer sur lui. Il manœuvra pour faire marche arrière, mais le chemin était étroit et le véhicule s'enlisa dans la neige.
Merde !
Une poussée de sueur lui emperla le front. Il enclencha le frein et sortit dans le froid. Une chape de silence enveloppait la forêt. Quelques flocons se détachaient des branches et voltigeaient dans les airs.
« Y a quelqu'un ? »
demanda-t-il d'une voix tremblante. Pas de réponse. Il fit quelques pas pour se rapprocher du pick-up et regarda à travers la vitre. Personne. Il nota que la porte n'était pas verrouillée. Il s'apprêtait à l'ouvrir lorsqu'il entendit un crissement de pas dans la neige. Il se retourna brusquement et, dans un battement de paupières, aperçut une ombre noire qui s'abattait sur lui. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais la crosse d'une arme lui heurta le crâne. et il perdit connaissance. Emma avait entendu une succession de bruits sourds et paniqua.
« Tête de Blatte, tu m'entends ?»
demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude.
« Explique-moi ce qui se passe, Romuald, je t'en prie !»
Des larmes plein les yeux, elle ne put continuer sa supplique. Seule la sonnerie prolongée se faisait entendre. La communication était coupée.